Compréhension de l'oral, niveau avancé. Sujet numéro 1. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 1, document sonore, première écoute.
France Info.
Place à notre rendez-vous consommation sur France Info, France Info Conso. Et cette question aujourd'hui, peut-on vraiment manger local? Peut-on réellement s'alimenter grâce aux productions de sa région? Nouvelle enquête du magazine 60 millions de consommateurs ce mois-ci. Bonjour Patricia Chéropoulos.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de cette enquête pour le magazine. Pourquoi creuser ce sujet maintenant? Est-ce que c'est encore un des fils que l'on tire après le confinement?
Oui, tout à fait, parce que ça a été vraiment marquant que pendant le confinement, beaucoup de consommateurs se sont intéressés davantage à la qualité de leur alimentation. En plus, les marchés en plein air étaient partiellement fermés. On n'avait pas forcément envie de se retrouver dans les rayons des grandes surfaces. Donc, toutes ces raisons ont poussé à s'intéresser à manger local, à manger, à utiliser des circuits de proximité. Et effectivement, ça continue, même si ça s'est un petit peu freiné, mais ça continue à intéresser beaucoup les consommateurs. Oui.
Pour qu'on ait les idées claires, qu'est-ce qu'on entend par manger local? Est-ce qu'il y a des règles précises, par exemple, pour définir l'alimentation de proximité?
Alors non, pas vraiment. Alors le local, c'est un terme qui est non réglementé. Maintenant, on sait qu'il désigne une production réalisée à peu près à moins de 150 km du point de vente. Quant au circuit court ou de proximité, c'est autre chose. Là, il n'y a plus de distance, c'est seulement une question d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait plus d'un seul intermédiaire qui intervienne. Par exemple, les produits peuvent soit être achetés en direct à la ferme ou au marché, soit par le biais, par exemple, d'un artisan ou d'un distributeur.
Oui, vous prenez par exemple dans votre enquête l'idée d'un agriculteur qui produirait du bœuf avec un de ses clients à l'autre bout de la France qu'il commanderait directement pour se le faire envoyer. C'est circuit court, mais pas local, donc ne pas confondre ces deux concepts. Est-ce que le local garantit la qualité, Patricia? Est-ce qu'on est sûr d'avoir des produits de saison, par exemple?
Alors oui, a priori, le local garantit des produits frais et de bonne qualité, ne serait-ce que parce que les teneurs en vitamines, en minéraux, les saveurs vont être mieux conservées si le circuit est très court. Voilà, d'une part. D'autre part, la saisonnalité, je dirais qu'elle est même partie intégrante du local. On va acheter, le producteur va vendre au fil de sa production ses denrées. Et évidemment, on n'est en aucun cas face à des produits importés. Donc vraiment, la saisonnalité rime avec le local, oui.
Et le local, on le sait aujourd'hui, il est vraiment marketé par les supermarchés, notamment par les grandes surfaces. Est-ce que c'est pas comme à l'image du bio, parfois un moyen aussi pour les vendeurs, les revendeurs d'augmenter les marges.
Ah oui, bien sûr, la grande distribution joue le jeu, hein, elle saisit ça. Alors, ça fait déjà un certain temps d'ailleurs que les enseignes vont mettre les photos des petits producteurs à côté de quelques fruits et légumes, s'ils n'empêchent pas à l'autre bout du rayon, même pas, de vendre des fruits et légumes qui viennent de l'autre bout du monde. Donc voilà, il n'y a pas vraiment cette philosophie dans la grande distribution. Vous pouvez trouver du local, mais c'est à très petite échelle. On va dire d'un point de vue même philosophique, le local comme le circuit court sont déconnectés de la grande distribution. Ce sont des circuits parallèles.
Et on l'a d'ailleurs vu pendant le confinement, justement par rapport à cette période du printemps dernier, où on a vu la vente directe, le local, les circuits courts séduire les Français. Est-ce que depuis, ça a perduré ou est-ce qu'on a vu une baisse dans les chiffres ?
Bien sûr, on a vu une baisse, on est un petit peu revenu à nos habitudes d'antan. Même si les ventes en circuit court ont chuté, elles restent quand même 20 à 30% supérieures au niveau d'avant le confinement. Donc c'est une tendance lourde, malgré les freins qu'il y a encore. Donc comme je le disais, c'est la difficulté des consommateurs à changer leurs habitudes d'achat. Ils vont retourner un peu dans leur grande surface du coin. Et puis aussi les producteurs qui doivent s'organiser pour pouvoir proposer plus de variétés, plus de quantités. Mais on est vraiment dans cette tendance. Là, on la suit. Là, je pense qu'on va plus la lâcher.
Dans votre dossier, vous interrogez des experts du secteur. Vous leur demandez si une massification du phénomène est possible dans la durée. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il faut une complète réorganisation de la filière pour cela en France ?
Dans l'absolu, oui. Oui, il faudrait, pour relocaliser de façon globale les productions agricoles, c'est vrai qu'il faudrait revoir totalement la politique agricole, parce que pour l'instant, ce sont surtout des grandes exploitations qui détiennent une grande part des terres agricoles et qui vont faire surtout des cultures, des monocultures. Donc évidemment qu'il faut complètement changer. Ce n'est pas encore pour demain, mais notre société commence à être prête pour le changement. C'est ce que nous disent les experts. Hein. Ils sentent qu'il y a vraiment une conscience collective là-dessus, mais il faut aussi la volonté politique. Et celle-là n'est peut-être pas encore tout à fait là.
On voit donc que manger local n'est pas forcément une utopie, mais qu'il reste beaucoup de choses à faire évoluer. Merci beaucoup, Patricia Chiropoulos, auteur de ce dossier, de cette enquête dans le magazine 60 millions de consommateurs de ce mois-ci. Au revoir.
Sujet numéro 1, document sonore, deuxième écoute.
France Info.
Place à notre rendez-vous consommation sur France Info Conso. Et cette question aujourd'hui, peut-on vraiment manger local ? Peut-on réellement s'alimenter grâce aux productions de sa région ? Nouvelle enquête du magazine 60 millions de consommateurs ce mois-ci. Bonjour Patricia Chiropoulos.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de cette enquête pour le magazine. Pourquoi creuser ce sujet maintenant ? Est-ce que c'est encore un des fils que l'on tire après le confinement ?
Oui, tout à fait, parce que ça a été vraiment marquant que pendant le confinement, beaucoup de consommateurs se sont intéressés davantage à la qualité de leur alimentation. En plus, les marchés en plein air étaient partiellement fermés. On n'avait pas forcément envie de se retrouver dans les rayons des grandes surfaces. Donc, toutes ces raisons ont poussé à s'intéresser à manger local, à manger, à utiliser des circuits de proximité. Et effectivement, ça continue, même si ça s'est un petit peu freiné, mais ça continue à intéresser beaucoup les consommateurs. Oui.
Pour qu'on ait les idées claires, qu'est-ce qu'on entend par manger local ? Est-ce qu'il y a des règles précises, par exemple, pour définir l'alimentation de proximité ?
Alors non, pas vraiment. Alors le local, c'est un terme qui n'est non réglementé. Maintenant, on sait qu'il désigne une production réalisée à peu près à moins de 150 km du point de vente. Quant au circuit court ou de proximité, c'est autre chose. Là, il n'y a plus de distance, c'est seulement une question d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait plus d'un seul intermédiaire qui intervienne. Par exemple, les produits peuvent soit être achetés en direct, à la ferme ou au marché, soit par le biais, par exemple, d'un artisan ou d'un distributeur.
Oui, vous prenez par exemple dans votre enquête l'idée d'un agriculteur qui produirait du bœuf avec un de ses clients à l'autre bout de la France qu'il commanderait directement pour se le faire envoyer. C'est circuit court, mais pas local, donc ne pas confondre ces deux concepts. Est-ce que le local garantit la qualité, Patricia ? Est-ce qu'on est sûr d'avoir des produits de saison, par exemple ?
Alors oui, a priori, le local garantit des produits frais et de bonne qualité, ne serait-ce que parce que les teneurs en vitamines, en minéraux, les saveurs vont être mieux conservées si le circuit est très court. Voilà, d'une part. D'autre part, la saisonnalité, je dirais qu'elle est même partie intégrante du local. On va acheter, le producteur va vendre au fil de sa production ses denrées. Et évidemment, on n'est en aucun cas face à des produits importés. Donc vraiment, la saisonnalité rime avec le local, oui.
Et le local, on le sait aujourd'hui, il est vraiment marketé par les supermarchés, notamment par les grandes surfaces. Est-ce que c'est pas, comme à l'image du bio parfois, un moyen aussi pour les vendeurs, les revendeurs d'augmenter les marges?
Ah oui, bien sûr, la grande distribution joue le jeu, elle a saisi ça. Alors, ça fait déjà un certain temps d'ailleurs que les enseignes vont mettre les photos des petits producteurs à côté de quelques fruits et légumes, s'ils n'empêchent pas à l'autre bout du rayon, même pas de vendre des fruits et légumes qui viennent de l'autre bout du monde. Donc voilà, il n'y a pas vraiment cette philosophie dans la grande distribution. Vous pouvez trouver du local, mais c'est à très petite échelle. On va dire d'un point de vue même philosophique, le local comme le circuit court sont déconnectés de la grande distribution. Ce sont des circuits parallèles.
Et on l'a d'ailleurs vu pendant le confinement, justement par rapport à cette période du printemps dernier, où on a vu la vente directe, le local, les circuits courts séduire les Français. Est-ce que depuis, ça a perduré ou est-ce qu'on a vu une baisse dans les chiffres?
Bien sûr, on a vu une baisse, on est un petit peu revenu à nos habitudes d'antan. Même si les ventes en circuit court ont chuté, elles restent quand même 20 à 30% supérieures au niveau d'avant le confinement. Donc c'est une tendance lourde, malgré les freins qu'il y a encore. Donc comme je le disais, c'est la difficulté des consommateurs à changer leurs habitudes d'achat. Ils vont retourner un peu dans leur grande surface du coin. Et puis aussi les producteurs qui doivent s'organiser pour pouvoir proposer plus de variétés, plus de quantités. Mais on est vraiment dans cette tendance. Là, on la suit. Là, je pense qu'on va plus la lâcher.
Dans votre dossier, vous interrogez des experts du secteur. Vous leur demandez si une massification du phénomène est possible dans la durée. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il faut une complète réorganisation de la filière pour cela en France?
Dans l'absolu, oui. Oui, il faudrait, pour relocaliser de façon globale les productions agricoles, c'est vrai qu'il faudrait revoir totalement la politique agricole, parce que pour l'instant, ce sont surtout des grandes exploitations qui détiennent une grande part des terres agricoles et qui vont faire surtout des cultures, des monocultures. Donc évidemment qu'il faut complètement changer. Ce n'est pas encore pour demain, mais notre société commence à être prête pour le changement. C'est ce que nous disent les experts. Ils sentent qu'il y a vraiment une conscience collective là-dessus, mais il faut aussi la volonté politique. Et celle-là n'était pas encore tout à fait là.
On voit donc que manger local n'est pas forcément une utopie, mais qu'il reste beaucoup de choses à faire évoluer. Merci beaucoup, Patricia Chiropoulos, auteure de ce dossier, de cette enquête dans le magazine 60 millions de consommateurs de ce mois-ci. Au revoir.
Sujet numéro 2. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 2. Document sonore. Première écoute.
Une initiative écologique et solidaire. Recyclivre est un site internet de vente de livres d'occasion. Il a collecté 3 millions d'ouvrages l'an dernier, des livres qui prenaient la poussière, qui auraient sans doute pour beaucoup fini à la poubelle. À l'arrivée, après avoir fait le tri, Recyclivre en a écoulé 1 million.
David Romain, à l'origine du concept, en est convaincu. Allez, on le retrouve au cœur de son entrepôt.
Ce que je vois, c'est juste du délire.
Oui, ici, on a plus d'un million de livres, effectivement. Remettre un livre en circulation par Recyclivre, c'est 400 grammes de CO2 qui sont économisés par rapport à en produire un neuf.
Pour un seul livre.
Et ça pour un seul livre, donc voilà, sur un million, ça fait 400 tonnes. On essaye d'en sauver un maximum.
Et alors, il y a de tout, ça va de quoi à quoi là?
On les classe pas évidemment par couleur ou par auteur, sinon on n'aurait pas fini. On les classe par les codes-barres et ça va du roman à l'essai, à la géographie, à des livres de photos, d'art, des romans jeunesse comme on voit là, du Harry Potter.
Ce bouquin de conjugaison par exemple, ça me paraît en bon état. C'est trié en fonction de quoi en fait?
C'est qu'il puisse encore être lu, qu'il n'y ait pas de pages qui manquent, que la reliure soit pas complètement ouverte, qu'il n'y ait pas des taches partout qui rendent le livre impropre à la lecture.
Alors, je sais pas, je vais offrir un livre à ma sœur. Par exemple, celui-là, je fais des économies de combien en fait par rapport au neuf?
Alors, nous, les prix sur notre plateforme commencent à 4 euros frais de port inclus et la moyenne est à peu près à 7 euros. L'occasion, c'est l'économique et je fais du bien à la planète.
On n'a même pas parlé du côté solidaire, réinsertion.
Oui, bah par exemple, là, Francis, là, il est en train de préparer des commandes.
Je vais aller le voir.
Francis, très concentré sur ses codes-barres.
Est-ce que je peux vous demander ce que vous êtes en train de faire, monsieur?
Sur chaque boîte, c'est un client. Ici, sur le numéro 25, il a pris une dizaine de livres. À partir de là, on a une tournée à faire, comme un facteur.
Vous partez dans tout l'entrepôt
là. On part dans tout l'entrepôt, voilà, pour retrouver les livres.
Ça fait combien de temps, Francis, que vous faites ça?
Là, ça va faire 10 mois.
Et vous faisiez quoi avant?
Bah, j'étais au chômage.
C'est quoi pour vous, Recyclivre?
De l'espérance. Ça me remet dans le bain, ça me remet dans le travail. Quand vous avez plus de 50 ans, ça devient compliqué.
Vous tournez une page, quoi, si je peux dire.
Voilà, c'est tout à fait ça, ouais, je tourne une page complètement. Heureusement qu'ils sont là.
Heureusement qu'ils sont là, même discours côté client. Laurent, par exemple, DRH dans une entreprise internationale.
Amazon, c'est très bien, c'est très professionnel, mais c'est froid. Je ne sais pas qui a envoyé le paquet. Là, regardez. J'ai passé une commande dimanche. Je reçois à 5h ce matin. Bonjour, bonne nouvelle. Votre commande a été préparée et emballée aujourd'hui par soin avec Magali.
Combien d'ouvrages commandés déjà?
Alors, comme je suis un passionné de BD, j'ai dû en commander déjà entre 40 et 50.
Une âme au fil des pages. Tout est dit, Sabrina ne peut plus se passer de Recyclivre.
Je trouve des pépites. Par exemple, ce livre... J'ai trouvé plein de réflexions écrites avec le crayon à papier. Je dis merci, je sais pas qui tu es, mais grâce à toi, je peux lire ce trésor.
Je ne sais pas qui tu es.
Oui, c'est une histoire qui continue. Il y en a marre de tout ce gaspillage, il y en a marre de toute cette consommation, il y en a marre de donner à chaque cadeau qu'on fait une valeur économique.
Est-ce que vous donnez aussi des livres?
Oui.
Donc vous êtes cliente de Recyclivre et en même temps... Vous donnez.
Les deux.
Et la boucle est bouclée.
Sujet numéro 2, document sonore, deuxième écoute.
Une initiative écologique et solidaire. Recyclivre est un site internet de vente de livres d'occasion. Il a collecté 3 millions d'ouvrages l'an dernier, des livres qui prenaient la poussière, qui auraient sans doute pour beaucoup fini à la poubelle. À l'arrivée, après avoir fait le tri, Recyclivre en a écoulé 1 million.
David Romain, à l'origine du concept, en est convaincu. Allez, on le retrouve au cœur de son entrepôt.
Ce que je vois, c'est juste du délire.
Oui, ici, on a plus d'un million de livres, effectivement. Remettre un livre en circulation par recyclage, c'est 400 grammes de CO2 qui sont économisés par rapport à en produire un neuf.
Pour un seul livre?
Et ça pour un seul livre, donc voilà, sur un million, ça fait 400 tonnes. On essaye d'en sauver un maximum.
Et alors, il y a de tout? Ça va de quoi à quoi, là?
On les classe pas évidemment par couleur ou par auteur, sinon on n'aurait pas fini. On les classe par les codes barres. Et ça va du roman à l'essai, à la géographie, à des livres de photos, d'art, des romans jeunesse, comme on voit là, du Harry Potter.
Ce bouquin de conjugaison, par exemple, ça me paraît en bon état. C'est trié en fonction de quoi, en fait?
C'est qu'il puisse encore être lu, qu'il n'y ait pas de pages qui manquent, que la reliure soit pas complètement ouverte, qu'il n'y ait pas des taches partout qui rendent le livre impropre à la lecture.
Alors, je sais pas, je veux offrir un livre à ma sœur. Par exemple, celui-là, je fais des économies de combien, en fait, par rapport au neuf?
Alors, nous, les prix sur notre plateforme commencent à 4 euros frais de port inclus, et la moyenne est à peu près à 7 euros. L'occasion, c'est économique et je fais du bien à la planète.
On n'a même pas parlé du côté solidaire, réinsertion.
Oui, bah par exemple, là, Francis, là, il est en train de préparer des commandes.
Je vais aller le voir.
Francis, très concentré sur ses codes barres.
Est-ce que je peux vous demander ce que vous êtes en train de faire, monsieur?
Sur chaque boîte, c'est un client. Ici, sur le numéro 25, il a pris une dizaine de livres. À partir de là, on a une tournée à faire, comme un facteur.
Vous partez dans tout l'entrepôt, là.
On part dans tout l'entrepôt, voilà, pour retrouver les livres.
Ça fait combien de temps, Francis, que vous faites ça?
Là, ça va faire 10 mois.
Et vous faisiez quoi avant?
Bah, j'étais au chômage.
C'est quoi pour vous, Recyclivre?
De l'espérance. Ça me remet dans le bain, ça me remet dans le travail. Quand vous avez plus de 50 ans, ça devient compliqué.
Vous tournez une page, quoi, si je puis dire.
Voilà, c'est tout à fait ça, ouais, je tourne une page complètement. Heureusement qu'ils sont là.
Heureusement qu'ils sont là, même discours côté client. Laurent, par exemple, DRH dans une entreprise internationale.
Amazon, c'est très bien, c'est très professionnel, mais c'est froid. Je ne sais pas qui a envoyé le paquet. Là, regardez. J'ai passé une commande dimanche. Je reçois à 5h ce matin. Bonjour, bonne nouvelle. Votre commande a été préparée et emballée aujourd'hui par soin avec Magali.
Combien d'ouvrages commandés déjà?
Alors, comme je suis un passionné de BD, j'ai dû en commander déjà entre 40 et 50.
Une âme au fil des pages. Tout est dit, Sabrina ne peut plus se passer de recyclivre.
Je trouve des pépites. Par exemple, ce livre. J'ai trouvé plein de réflexions écrites avec le crayon à papier. Je dis merci, je sais pas qui tu es, mais grâce à toi, je peux lire ce trésor.
Je ne sais pas qui tu es.
Oui, c'est une histoire qui continue. Il y en a marre de tout ce gaspillage, il y en a marre de toute cette consommation, il y en a marre de donner à chaque cadeau qu'on fait une valeur économique.
Est-ce que vous donnez aussi des livres?
Oui.
Donc vous êtes cliente de Recyclivre et en même temps... Vous donnez.
Les deux.
Et la boucle est bouclée.
Sujet numéro 3. Vous avez une minute pour lire les consignes. Vous allez écouter trois documents sonores. Document numéro 1.
L'été, ce sont aussi évidemment les barbecues qui fument, les tondeuses qui tournent et les enfants qui crient dans la piscine tout l'après-midi dans le jardin du voisin. L'été, les plaisirs des uns font parfois les nuisances des autres. Bonjour Charlie Caillou.
Bonjour David.
Vous êtes conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr. Charlie, comment faire cesser ces troubles de voisinage?
Alors c'est une question qui est à la fois très fréquente et très compliquée. Ce que l'on peut faire cesser, ce sont les troubles anormaux de voisinage. Ça veut dire qu'il y a des troubles normaux de voisinage et que l'on doit les supporter. Alors évidemment, on ne peut pas prétendre au silence absolu et c'est d'autant plus vrai si vous habitez en ville ou dans un immeuble collectif. Donc très vite se pose la question, à partir de quand un trouble est anormal, à partir de quand il devient inacceptable.
Document numéro 2.
Notre sujet du jour, c'est le logement étudiant. 6 étudiants sur 10 doivent trouver un logement en dehors du foyer familial. Et il faut dès maintenant commencer à y réfléchir en vue de la rentrée prochaine, Charlie.
Oui, exactement. Il faut s'y prendre le plus tôt possible. Et cette année, c'est encore plus vrai que d'habitude. Avec l'épidémie du Covid-19, eh bien, beaucoup d'étudiants ont libéré leur logement dès le début de la crise pour retourner chez leurs parents. Donc, beaucoup de logements sont disponibles. Et si vous avez une certitude sur votre lieu d'études à la rentrée, eh bien, il faut vous mettre dès maintenant en quête d'un logement. Plus vous attendrez, et plus il y aura de concurrence.
Document numéro 3.
Vous êtes peut-être déjà sur votre lieu de vacances. On espère évidemment que tout se passe parfaitement bien. Mais dans le cas contraire, eh bien, on va voir comment réagir. Charlie Caillou, bonjour.
Bonjour David.
Vous êtes conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr. C'est quoi, Charlie, le principal litige dans les locations saisonnières?
Alors, beaucoup de litiges ont pour origine une incompréhension entre le locataire et le propriétaire. C'est la raison pour laquelle c'est très important de conclure un contrat écrit dans lequel il y a un descriptif très précis du logement, c'est-à-dire sa situation par rapport à la plage, au commerce, au centre-ville. Il faut également détailler les équipements dans le logement, donc le nombre de couchages, la machine à laver, le linge de maison, jusqu'aux ustensiles de cuisine. Plus le contrat est complet et plus vous éviterez les mauvaises surprises.
Document numéro 1, deuxième écoute.
L'été, ce sont aussi évidemment les barbecues qui fument, les tondeuses qui tournent et les enfants qui crient dans la piscine tout l'après-midi dans le jardin du voisin. L'été, les plaisirs des uns font parfois les nuisances des autres. Bonjour Charlie Caillou.
Bonjour David.
Vous êtes conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr. Charlie, comment faire cesser ces troubles de voisinage?
Alors c'est une question qui est à la fois très fréquente et très compliquée. Ce que l'on peut faire cesser, ce sont les troubles anormaux de voisinage. Ça veut dire qu'il y a des troubles normaux de voisinage et que l'on doit les supporter. Alors, évidemment, on ne peut pas prétendre au silence absolu et c'est d'autant plus vrai si vous habitez en ville ou dans un immeuble collectif. Donc, très vite se pose la question, à partir de quand un trouble est anormal, à partir de quand il devient inacceptable.
Document numéro 2, deuxième écoute.
Notre sujet du jour, c'est le logement étudiant. 6 étudiants sur 10 doivent trouver un logement en dehors du foyer familial. Et il faut dès maintenant commencer à y réfléchir en vue de la rentrée prochaine, Charlie.
Oui, exactement. Il faut s'y prendre le plus tôt possible. Et cette année, c'est encore plus vrai que d'habitude. Avec l'épidémie du Covid-19, eh bien, beaucoup d'étudiants ont libéré leur logement dès le début de la crise pour retourner chez leurs parents. Donc, beaucoup de logements sont disponibles. Et si vous avez une certitude sur votre lieu d'études à la rentrée, eh bien, il faut vous mettre dès maintenant en quête d'un logement. Plus vous attendrez et plus il y aura de concurrence.
Document numéro 3, deuxième écoute.
Vous êtes peut-être déjà sur votre lieu de vacances. On espère évidemment que tout se passe parfaitement bien. Mais dans le cas contraire, eh bien, on va voir comment réagir. Charlie Caillou, bonjour.
Bonjour David.
Vous êtes conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr. C'est quoi, Charlie, le principal litige dans les locations saisonnières?
Alors, beaucoup de litiges ont pour origine une incompréhension entre le locataire et le propriétaire. C'est la raison pour laquelle c'est très important de conclure un contrat écrit dans lequel il y a un descriptif très précis du logement, c'est-à-dire sa situation par rapport à la plage, au commerce, au centre-ville. Il faut également détailler les équipements dans le logement, donc le nombre de couchages, la machine à laver, le linge de maison, jusqu'aux ustensiles de cuisine. Plus le contrat est complet et plus vous éviterez les mauvaises surprises.
Fin de l'examen de compréhension de l'oral.